Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
Le Premier ministre face aux Français, un hommage à Juliette Gréco, des nouvelles des confinés et le casse-tête des studios de cinéma.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
Pas de surprise en tête puisque France 2 proposait un épisode inédit d'Alex Hugo. La série française s'est largement imposée avec 5,6 millions de téléspectateurs au compteur, soit 26,1% de part d'audience, un nouveau carton.
Et Alex Hugo, dont le scénariste n'est autre que Franck Illiez, notre invité de la deuxième heure.
Deuxième, TF1 poursuivait la diffusion de The Resident saison 2. Les deux épisodes inédits ont été suivis par 3,3 millions de téléspectateurs, soit 15,7% du public. Comme chaque semaine, la série est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 30% de part d'audience. Et c'est France 3 qui a pris la troisième position avec Des Racines et des Ailes. Le magazine de Carole Gessler a fédéré 2 millions de téléspectateurs, soit 10,2% du public.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias par la disparition de Juliette Gréco.
C'est la fête aux copains, c'est la fête à Pantin, c'est la fête à Paname.
On a appris hier en début de soirée le décès de la chanteuse à l'âge de 93 ans. Faite commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2016, Juliette Gréco était une figure majeure de la chanson française. Elle avait ému le public français mais aussi international en chantant notamment les textes de Jacques Prévert, Boris Vian ou encore Léo Ferré.
Et Juliette Gréco était également comédienne.
Oui, on a surtout retenu son rôle dans la série télé Belphégor ou Le Fantôme du Louvre dont les 4 épisodes ont été diffusés en 1965. Il s'agit de sa seule apparition dans une fiction télé. Mais la chanteuse s'est aussi illustrée au cinéma dans une trentaine de films tournant pour Melville, Cocteau ou encore Renoir. Ce matin, vous n'avez pas pu passer à côté de la une de Libération. Avec ce titre, Juliette Gréco, nous vous aimions en
magnifique
référence à la javanaise de Gainsbourg qu'elle avait reprise. Et la télé lui rendra aussi hommage. Hier soir, à la fin de son 20h sur France 2, Anne-Sophie Lapix a annoncé que France 3 proposerait une soirée spéciale consacrée à Juliette Gréco ce vendredi.
Et on reste à France Télévisions avec le retour de la politique ce soir en prime time sur France 2.
Léa Salamé et Thomas Soto seront aux commandes ce soir à 21h05 du premier numéro de la saison de Vous avez la parole. Et pour sa rentrée, le magazine politique qui avait été lancé l'année dernière accueillera Jean Castex un peu moins de 3 mois après sa nomination au poste de Premier ministre. C'est un moment important pour le successeur d'Édouard Philippe, comme l'a expliqué Léa Salamé à Louise Bernard.
Il reste un inconnu pour beaucoup de Français. Il a été nommé le 3 juillet dernier et c'est sa première vraie grande prise de parole et donc prise de risque. Il a été accueilli avec un climat plutôt bienveillant il y a 3 mois, mais aujourd'hui les problèmes commencent, si j'ose dire. D'abord, il y a l'ombre tutélaire du très populaire Édouard Philippe qu'il va devoir effacer ce soir. Il y a aussi les égaux et les grandes gueules dans son gouvernement, Dupond-Moretti contre Darmanin, etc. Et je peux vous dire que à la fois Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin seront dans le public, il viendra avec des ministres, c'est assez rare pour le souligner, ils viendront, je ne sais pas s'ils seront à côté, mais en tout cas ils viendront, et donc il va devoir montrer ce Premier ministre qui il est, ce qu'il a dans le ventre, et aussi s'il a suffisamment d'autorité pour tenir son gouvernement.
L'an dernier, Vous avez la parole a enregistré des audiences très inégales et assez modestes sur France 2, oscillant entre 1,2 et 2,2 millions de téléspectateurs sur ces 7 numéros. Du coup, l'émission évolue en cette deuxième saison pour impliquer plus encore les Français.
C'est pas que le Premier ministre, pas l'émission du Premier ministre, c'est vraiment la confrontation et le face-à-face avec les Français. On essaye, avec Thomas Soto, de réfléchir vraiment au titre de notre émission, Vous avez la parole, et le vous, c'est Jean Castex, mais c'est pas seulement Jean Castex, c'est aussi les Français. Et on va vraiment, plus encore que sur les autres émissions, donner la parole aux Français. Des Français qui seront face à lui sur le plateau, par exemple, une grand-mère qui n'a pas supporté la phrase « Les papiers et mamie, vous serez gentils de ne pas aller chercher vos petits-enfants à l'école ». Il y aura aussi des Français qui seront en direct avec nous de Grenoble sur le thème de l'insécurité. Vous savez, Grenoble, on en a beaucoup parlé cet été sur l'insécurité. On va donner la parole aussi à des ouvriers de Bridgestone qui ont des choses à dire au Premier ministre. Et puis enfin, les téléspectateurs pourront poser leurs questions à travers le hashtag « On vous répond » et on donnera leurs questions également au Premier ministre.
Mais Jean Castex ne sera pas confronté qu'aux journalistes ou aux téléspectateurs. Vous avez la parole à également convié 4 maires de sensibilités politiques différentes. Le maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux, qui a fait beaucoup parler en appelant à supprimer le sapin de Noël de la ville.
Mais oui, l'arbre mort.
Le fameux. Mais aussi Robert Ménard, le maire de Béziers, Johanna Roland, la maire de Nantes et David Lisnard, le maire de Cannes. Et pour attirer les plus jeunes ou les plus geeks, au choix, ou les deux d'ailleurs, l'émission sera commentée en direct sur Twitch par le streamer politique Jean Massier. Rendez-vous rendez-vous ce soir à 21h05 sur France 2.
Il est excellent, Germain Sia. Il était sur LCP. On l'avait reçu justement pour en parler, la manière dont il a de parler nouvellement, modernement, si j'ose dire, de la politique. Bonne nouvelle, l'équipe de La Quotidienne va bien.
Depuis jeudi dernier, Maya Loquet, Thomas Isle et tous les chroniqueurs de l'émission de la mi-journée de France 5 étaient à l'isolement. On en a parlé en fin de semaine dernière. Un de leurs invités a en effet été testé positif au coronavirus et toute l'équipe a donc été considérée comme cas contact et placée en quarantaine. Mais comme l'a révélé Le Parisien hier, les résultats des tests de tout ce petit monde sont négatifs. Ce n'est pas une grande surprise. La semaine dernière, Thomas Isle soulignait déjà toutes les précautions prises sur le tournage. Une table plus large et un canapé plus grand pour accroître les distances entre chaque membre de l'équipe. Des masques dès qu'on quitte le plateau. Bref, les gestes barrières ont été respectés et le Covid-19 n'a pas circulé.
Et donc, c'est le retour des inédits dès aujourd'hui.
Et non, il faudra attendre lundi pour retrouver La Quotidienne en direct sur France 5. Demain, tout le monde sera à pied d'œuvre pour enregistrer de nouvelles émissions, mais elles seront mises de côté au cas où la situation se reproduirait, ce qui n'est pas exclu vu la progression de la pandémie.
Et on ne change pas de sujet, les nouvelles sont bonnes aussi pour Laurence Ferrari.
Et oui, même schéma pour l'animatrice de Punchline sur CNews, on en parlait lundi. La journaliste avait interviewé Bruno Le Maire jeudi dernier et le ministre de l'économie avait ensuite été testé positif au coronavirus. Même punition donc que l'équipe de La Quotidienne. Laurence Ferrari a été mise à l'isolement. Elle a donc dû laisser les rênes de l'interview politique de la matinale de CNews à Gérard Leclerc, tandis que Patrick Boisfer a animé Punchline lundi et mardi. Elle avait donc été testée vendredi, elle a été retestée mardi. Dans les deux cas, les résultats étaient négatifs. La journaliste a donc repris le chemin des studios de CNews dès hier.
Et en parlant de studios, dans les studios de cinéma, on s'arrache les cheveux.
Vous savez, les calendriers de sortie au cinéma se prévoient très très en amont. Ah oui. Les studios américains calent parfois leurs dates des années en avance, mais la pandémie est venue bouleverser tous leurs projets. Au printemps déjà, la sortie du dernier James Bond et celle de Mulan avaient été les premières à être décalées. Et depuis, rien ne sort. Seul blockbuster à avoir tenté sa chance en salle, Tenet de Christopher Nolan, sorti fin août. Compte tenu des circonstances, les 250 millions de dollars engrangés depuis sa sortie sont plutôt encourageants, mais pas suffisants pour générer un bénéfice. Ce test a donc convaincu tous les studios de repousser les grosses sorties prévues dans les semaines et dans les mois à venir.
Vous voulez dire qu'on n'aura donc aucune grosse nouveauté d'ici Noël?
Ça semble mal parti, encore plus depuis les annonces de Disney hier. Le studio a officialisé une série de décalages auxquels on s'attendait malheureusement de plus en plus. Black Widow, le prochain Marvel avec Scarlett Johansson. Il devait arriver dans les salles obscures en novembre prochain, il ne sortira finalement qu'en mai. La nouvelle version de West Side Story, signée Steven Spielberg, était pour sa part attendue en décembre, mais Disney la dévoilera finalement un an plus tard, en décembre 2021. La punition est moins sévère pour Mort sur le Nil, nouvelle adaptation d'un roman d'Agatha Christie par Kenneth Branagh, attendu le 14 octobre dans les salles de l'Hexagone. Le film sortira finalement au mois de décembre. La date française précise n'a pas encore été révélée.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias.